L'exemplarité, anatomie d'une vertu politique.
Une affaire Epstein qui met en lumière les dérives morales de personnalités politiques. En France, une candidate à la présidentielle menacée d'inéligibilité et un ancien président multicondamné et un temps emprisonné. La question de l'exemplarité de ceux qui nous gouvernent est au cœur de l'actualité et de l'histoire. Depuis l'Antiquité, cette question hante en effet les démocraties.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le professeur de droit Éric Buge.
Épisode 5, 1974, le scandale du Watergate ou la fin de l'impunité.
Le Watergate a montré aux futurs dirigeants de ce pays les limites du pouvoir de la Maison-Blanche. Certes, la Constitution américaine est fondée sur le principe d'un président fort, mais celui-ci doit respecter la loi et l'opinion publique. De toute façon, avec le développement extraordinaire des moyens modernes d'information de masse, le temps des politiques élaborées dans le secret des cabinets est révolu. Pierre Salinger, dans l'Express, en août 1974. On est aux États-Unis pour la première fois depuis qu'on converse ensemble, Éric Buge, mais comment ne pas parler du Watergate quand on évoque la question de la vertu en politique? C'est énorme cette affaire. On en dit un mot avant de réfléchir à ce que ça a produit là-bas et chez nous. Mais cette affaire, elle est énorme. Elle aboutit à la démission d'un président, une première aux États-Unis.
Exactement. L'homme le plus fort du monde, le plus puissant du monde, est contraint de démissionner parce qu'il semblait être à l'origine un cambriolage de droit commun dans l'immeuble du Watergate, qui donne son nom à l'affaire, qui était en fait le siège du Parti démocrate à Washington. Et au fil des enquêtes de la presse, des enquêtes judiciaires aussi, relayées dans un second temps par le Sénat, qui crée une commission d'enquête aux États-Unis, va apparaître l'implication d'un certain nombre de conseillers du président Nixon dans ce cambriolage, qui avait en fait des finalités politiques, qui n'était pas un simple délit de droit commun, et qui va conduire, contraint et forcé, Nixon à la démission. Nixon, qui pourtant venait d'être élu. Donc là aussi, dans la guerre des principes entre élection et intégrité des gouvernants, on voit que les choses commencent à se présenter de manière un peu différente.
Donc, Nixon démissionne. Et je reprends quand même les mots de Pierre Salinger, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Certes, la Constitution est fondée sur le principe de président fort, mais celui-ci doit respecter la loi et l'opinion publique. Parce que ce qui est très important dans cette affaire, et vous l'avez évoqué à plusieurs reprises déjà, notamment quand on avait parlé de Panama ou des années 30, c'est l'acteur opinion publique, l'acteur presse. C'est d'abord ça, cette affaire. C'est une affaire révélée par des journalistes du Washington Post.
Exactement. Et la presse d'investigation acquiert là ses lettres de noblesse. Ouais. C'est au tableau de chasse de la presse d'investigation. Le fait d'avoir pu contribuer à la démission du président des États-Unis, ça n'était pas la finalité du Washington Post, mais les révélations successives du Washington Post vont faire peser une pression telle sur le président des États-Unis qu'il va être contraint à la démission. Et donc on a là l'un des renversements qui explique la fin de cette éclipse de la vertu, qui est le rôle massif et de plus en plus important que va jouer la presse dans le contrôle des responsables politiques, et en particulier la presse d'investigation, qui se fait justement un métier de contrôler l'intégrité des responsables politiques. Et les journalistes du Washington Post vont être des modèles pour des générations de journalistes qui se donnent justement pour mission d'éclairer l'opinion publique sur le comportement des gouvernants.
Est-ce que ce que vous me dites nous pousse à faire le deuil d'un contrôle par les politiques eux-mêmes ? Le pouvoir ne peut pas arrêter le pouvoir, comme considérait pourtant Montesquieu, vous nous l'avez dit dans un deuxième épisode, je crois. Il faut un contre-pouvoir indépendant, en l'occurrence ici, la presse d'investigation. Ça raconte quelque chose d'un peu négatif, non ?
Alors oui et non, parce que le moment du Watergate est un peu un moment charnière. La presse elle-même n'a pas de moyens d'investigation judiciaire, et donc souvent les grands scandales contemporains sont causés ou proviennent de une sorte d'alliance objective entre la presse d'une part, qui va mettre devant l'opinion publique un certain nombre d'éléments et qui va déclencher une enquête judiciaire. Et c'est précisément ce qui se passe en l'espèce. un juge va être désigné pour juger les cambrioleurs du Watergate et va accomplir ses fonctions avec une grande diligence, sans se laisser impressionner par le pouvoir politique en face de lui. Et donc on a là aussi un changement d'attitude des juges par rapport aux politiques, qui est vraiment le deuxième facteur qui explique la fin de cette éclipse de la vertu. Et pour répondre directement à votre question, il y a un troisième facteur dans l'affaire du Watergate, sans lequel certainement Nixon n'aurait pas démissionné, qui est la création d'une commission d'enquête au Sénat américain, qui va auditionner tous les acteurs, tous les témoins, notamment les conseillers du président, qui va aussi demander les bandes qui étaient enregistrées dans le bureau de Nixon, qui avait eu la bonne idée d'enregistrer l'ensemble de ces conversations.
Il était un peu paranoïaque.
Voilà, et ça a fini par le desservir. Et donc, c'est vraiment la conjonction de ces trois éléments. La presse, d'abord, la justice, ensuite, le monde politique, enfin, les oppositions ayant souvent, en démocratie, un intérêt à combattre le pouvoir politique.
Mais ça va produire quoi, le Watergate, durablement ? Est-ce que ça va être, et je reprends votre expression, instituant ? Est-ce que ça va créer des institutions du contrôle de la vertu ou de l'exemplarité ?
Exactement. Et c'est en ce sens aussi qu'on peut dire que le Watergate, c'est l'entrée dans l'ère de l'exemplarité. Pourquoi ? Parce que quelques années plus tard, les démocrates revenus au pouvoir vont faire voter de grandes lois en 1978 qui vont poser le cadre de toute la politique contemporaine d'exemplarité. Qu'est-ce qu'on exige
aux États-Unis ou ailleurs ?
Aux États-Unis. Et ensuite vont être imités ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, en 1978, qu'est-ce qu'on exige ? On exige des responsables de l'exécutif, des membres du Congrès, des membres de la Cour suprême, une déclaration de patrimoine et d'intérêt. Cette déclaration va être rendue publique.
Ah oui, très très tôt par rapport à chez nous.
Très très tôt. Alors que quelques années auparavant, des propositions avaient été faites en ce sens. On peut retrouver les débats au Congrès américain dans les années 1950-1960. C'était une idée qui était repoussée de tout le monde.
Un tabou.
Un tabou et même quelque chose qui était vu comme complètement saugrenu.
Ah oui.
Et les parlementaires à l'époque disaient « mais nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone ». Nous sommes des citoyens comme les autres. Pourquoi nous traiter plus durement que les,
ça, c'est intéressant,
que les autres
ça.
Citoyens ?
On l'a pas dit, mais pour beaucoup, ce qu'on se raconte là, c'est faire des politiques des citoyens de seconde zone, en tout cas des gens sous le niveau des autres. Donc je précise, ils ne sont plus au-dessus des lois, mais ils sont presque en dessous des lois. Parce qu'on exige de leur part des choses qu'on n'exige pas de n'importe quel citoyen.
Et c'est ça la politique d'exemplarité. La politique d'exemplarité, on peut la définir comme le fait d'élaborer des lois qui sont plus dures pour les gouvernants. C'est ça la politique d'exemplarité. À l'inverse des immunités, dont on parlait dans un épisode précédent, qui vont protéger spécifiquement les gouvernants.
Ouais.
Donc l'exemplarité, c'est le fait qu'à manquement égal, on va sanctionner plus durement le gouvernant, ou en tout cas, on va le surveiller plus étroitement.
Ça, c'est la loi. Mais est-ce qu'on peut aussi voir que dans la pratique politique, la transparence s'impose ? J'ai en mémoire la campagne de Carter en 1978, où il répond à un journal Playboy, qu'il a, au moins en imagination, déjà trompé sa femme. C'était le culte de la transparence après les mensonges et l'opacité de Nixon.
Oui, effectivement, les présidents, notamment démocrates successifs, ont essayé de jouer aussi sur cette idée d'un gouvernement ou d'un pouvoir républicain corrompu versus la vertu des démocrates. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'exemplarité prend place dans des institutions. Donc j'évoquais une déclaration d'intérêt de patrimoine, également la limitation des activités annexes. On ne peut plus exercer n'importe quel type d'activité en parallèle du mandat parlementaire. Donc voilà, prend place dans des institutions, mais elle prend place sans doute de manière encore plus puissante dans la liberté de la presse et l'opinion publique. Et dans la métamorphose que j'évoquais tout à l'heure de la presse en presse d'investigation, il y a aussi un aspect enquête sur la vie privée des gouvernants.
Eh oui.
Avant, les journalistes ne s'autorisaient pas à enquêter sur la vie privée du président américain. Et on peut dire que Kennedy aura été le dernier président à bénéficier de...
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, de cette immunité de fait. C'est pas une immunité de droit, mais voilà. Et progressivement, ces tabous vont tomber. La pratique professionnelle des journalistes va changer, si bien qu'aujourd'hui, la jurisprudence, et c'est là qu'on revient au droit, la jurisprudence a validé le fait qu'on pouvait publier plus de choses sur un responsable politique que sur un citoyen classique.
Ah bon ?
Donc le citoyen de seconde zone, c'est non seulement le responsable politique à qui la loi demande des déclarations d'intérêt, c'est aussi le responsable politique parce que la jurisprudence française, américaine, européenne, toutes les grandes cours aujourd'hui jugent que le débat d'intérêt public justifie qu'on puisse ébrécher en quelque sorte la vie privée des gouvernants.
Est-ce que ça veut dire, sans forcément invoquer les mannes de Kantorowicz, qu'il n'y a plus de corps, enfin, il n'y a pas le corps privé, le corps public ou le corps politique. C'est la même chose et on a le droit d'enquêter, d'investiguer sur le corps privé parce qu'en réalité, c'est un corps politique, c'est ça ?
C'est l'idée. Notamment, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un certain nombre de décisions en la matière. Elle dit, à partir du moment où on a affaire à un débat d'intérêt général, la liberté d'expression va primer sur le droit au respect de la vie privée. Vous et moi, pour le citoyen lambda, on a droit au respect de notre vie privée. Si jamais on publie des informations qui sont couvertes par ce secret, on peut engager une procédure pour faire condamner la personne qui les a publiées. En revanche, pour les responsables politiques, il y a un intérêt supérieur du public à connaître qui sont vraiment leurs gouvernants. Et donc, ça peut aller jusqu'à un certain nombre d'intrusions dans la vie privée. Et il y a un grand nombre de décisions sur l'état de santé de tel ou tel responsable politique, sur l'orientation sexuelle de tel ou tel responsable politique, dans lesquelles les juridictions ont dit ben, le droit à la vie privée est plus faible, moins garanti, parce que le public a le droit de savoir qui sont ses gouvernants.
On a le droit d'outer un homme politique, mais pas un citoyen lambda.
C'est un peu la logique. Et d'ailleurs, une décision judiciaire était intéressante, puisque deux responsables politiques qui étaient en couple, homosexuels, l'un qui était parlementaire, la Cour a dit « pour lui, on pouvait ». L'autre, qui n'avait pas de fonction, a dit « pour lui, par contre, on a enfreint sa vie privée ». Et donc, c'est vraiment le double standard qui a été élaboré progressivement par les juridictions. Et donc, une exemplarité de fait, non pas institutionnelle, mais du fait de l'activité de la presse protégée par les juridictions.
Sans évoquer la terreur, est-ce que ce n'est pas une dérive de la vertu, ça ?
Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on raisonnerait en termes de vertu et les juridictions n'emploient plus...
Ou une dérive de la transparence.
Voilà, on emploie plutôt le terme de transparence. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la transparence, ça n'est que le versant institutionnalisé de ces atteintes à la vie privée des gouvernants. Qu'est-ce que c'est que la transparence ? La transparence, c'est le fait de rendre public par la loi des informations qui normalement sont privées. Donc par exemple, si vous allez sur Internet, vous pouvez voir les déclarations d'intérêts et déclarations de patrimoine des ministres. Normalement, ce sont des informations privées. Oui. C'est ça la transparence. Oui. En revanche, tout ce que la presse rend public, ça ne participe pas vraiment de cette politique de transparence. C'est plutôt le jeu de l'opinion publique et donc le jeu de la démocratie contemporaine.
Dernière question, est-ce que le Watergate, puisqu'on y revient, en 1974, est-ce qu'il a, selon vous, renforcé la démocratie dans ses impacts et dans ses effets, ou installé une défiance durable envers les dirigeants et donc, d'une certaine manière, affaiblir la démocratie ?
Non, c'est une question intéressante et je pense qu'on peut questionner cette alternative. Le sous-jacent de la question, c'est que le soupçon vis-à-vis des dirigeants affaiblit la démocratie.
La défiance, en tout cas.
Ou la défiance affaiblit la démocratie. Bon, on peut avoir toutes sortes d'idées à ce propos et je vous renvoie notamment au livre de Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, où il dit un des aspects inhérents à la vie démocratique, c'est de supposer la défiance des citoyens. La démocratie ne suppose pas des citoyens passifs, elle suppose des citoyens qui, dans une certaine mesure, sont défiants vis-à-vis de leurs gouvernants, justement parce que les gouvernants ne sont pas les souverains en démocratie. Le souverain, c'est le peuple, et donc il est sain, dit Pierre Rosanvallon, que les citoyens, dans une certaine mesure, se défient aussi de leurs gouvernants. Donc on peut même questionner ce présupposé de votre question.
Donc quand vous voyez en une des journaux le parallèle entre ces chiffres du manque de confiance envers les élus et la crise démocratique liée, vous dites, attention, c'est pas forcément vrai. C'est peut-être au contraire le signe d'une vitalité démocratique.
Peut-être que je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il faut se garder de conclusions trop rapides. Et la défiance peut à la fois, bien sûr, être un poison pour les démocraties, qui suppose une certaine dose de confiance, mais aussi un signe, effectivement, de vitalité démocratique.
Le manque de confiance, en revanche, là, il est très clairement marqué. En France, au début des années 2010, autour des mensonges d'un ministre du budget, Jérôme Cahuzac, ce sera l'objet de notre dernier épisode. L'exemplarité, anatomie d'une vertu politique, est un podcast original de France Inter.